CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne sont pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
On le sait, la téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon, bienvenue avec Éric Laverdure à devant vos écrans en ce beau mercredi 9 décembre 2020. Il est présentement midi 1. Presque midi 2, et vous embarquez avec moi dans cette autoroute de l'information virtuelle et numérique. On va parler de plein de choses aujourd'hui, comme à notre habitude, en espérant que vous allez bien. Petite neige qui tombe sur Sherbrooke, fantastique. On est toujours en confinement, on est toujours en zone rouge à Sherbrooke également, et on espère peut-être sortir de cette zone-là. On regardera bien qu'est-ce qui se passe dans prochain jour. On sait également que Noël est annulé. Oui, les rassemblements de Noël sont sur pause pour le moment. Alors, ça va être un temps des fêtes qu'il faudra passer à se divertir. Et ça, ben, je vais vous en trouver du stock à vous divertir. Ne manquez pas, dans les deux prochaines semaines, mes spéciaux du temps des fêtes qui feront état de plein de choses, dont notamment de mes recommandations de balado-diffusion pour continuer à suivre le monde des technologies un peu plus à gauche. On va également, je vais également faire mes recommandations de documentaires que j'ai écoutés cette année. Et plein de choses que j'ai bien hâte de vous recommander pour passer un temps des fêtes pas trop pire dans tout ça. Alors, sur le bureau aujourd'hui, on discute de Google et Facebook qui devront peut-être payer les médias en Australie. On va parler aussi de plus des 20 000 arrestations en collaboration avec Interpol pour arrêter des fraudeurs en ligne. Une descente policière contre une lanceuse d'alerte en Floride. On va également parler de ce projet de loi qui est tombé hier à New York. Seriez-vous prêt à payer 3$ de plus pour un colis ne contenant rien d'utile? Alors, ce qui veut dire, c'est sûrement utile, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des premières nécessités, alors pas de nourriture et pas de médicaments. Seriez-vous prêt à payer 3$ pour ça? Et sinon, avant que je m'étouffe, aussi, on va parler de Cyberpunk qui sort enfin aujourd'hui 18h, 19h en fait. Pour les gens dans l'Est du monde, de notre côté à nous. Dans l'Ouest plus, effectivement. Alors, ça commence à 7h PM et déjà les premières critiques sont sorties depuis hier et c'est pas évident pour la gang de CD Projekt Red. Hein. Ce qu'on se demande, est-ce que ce sera un autre pétard mouillé? On en parlera un peu plus tard à la fin de l'émission. Et sinon, pour le moment, on va parler pornographie. Et oui, on va parler de Pornhub. Et oui, rien de mieux que des tonnes de Mario Bros pour aller en profondeur dans Pornhub. Alors oui, on le sait, la semaine dernière, les projecteurs se sont braqués sur le géant de la pornographie en ligne, une propriété de la société montréalaise MindGeek. Alors on les salue, à 2h30, à 2h de route, on est tout proche. Et oui, sans le savoir, vous consommez du contenu qui provient d'une plateforme 100% québécoise. Et oui, peut-être bien que le contenu en tant que tel, la vidéo n'est pas produite par des Québécois, mais au moins le site sur lequel il est hébergé bien provient du Québec. Alors, on peut être fier de ça, C'est bien mieux que le panier bleu. Alors, comme le mentionne Radio-Canada dans leur article sur leur article du nom de Pornhub annonce des changements importants à sa plateforme, c'est en collaboration avec l'AFP et plein d'autres journalistes. Bref, le site pornographique le plus populaire au monde s'engage alors à adopter des pratiques plus sévères pour garder un meilleur contrôle sur le contenu généré par ses utilisateurs. Alors, on se rappelle, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, Pornhub, en fait, ont annoncé mardi dans un article de blog une série de mesures qui seront prises pour contrer l'exploitation sexuelle des mineurs et la vengeance pornographique. Dorénavant, seuls les usagers dont l'identité aura été vérifiée pourront téléverser des vidéos. Alors, ce qui veut dire qu'avant... en fait, Pornhub avait un très grand marché du monde amateur, si on peut l'appeler ainsi, et bien, de leur côté, eh bien, il y avait une possibilité pour des gens anonymes ou même des comptes non vérifiés de publier des vidéos qui proviennent d'eux-mêmes, mais la plupart du temps, ça finissait par être, pardonnez-moi, ça pouvait être des vidéos faites à l'insu de certaines personnes ou bien des vidéos de revenge porn, bref, des choses pas correctes du tout. Alors, dorénavant, ce sera seulement des usagers qui seront identifiés. Il sera également impossible pour les utilisateurs de télécharger les vidéos. Alors, dans le temps, comme si j'utilisais ce site-là, il était possible pour les utilisateurs de Pornhub de télécharger les vidéos. Eh bien, il ne sera plus possible parce que ça finissait, là, il y a eu plusieurs articles, notamment un grand papier dans le New York Times qui parlait de cette jeune fille qui avait eu des photos d'elle, des vidéos d'elle à son insu prises et mises sur le web et qu'à chaque fois qu'elle les dénonçait, elle essayait de les faire enlever. Eh bien, les photos se retrouvaient par la suite encore sur l'Internet. Alors, il était vraiment complexe pour elle de faire détruire des parties de son passé dont elle n'a jamais eu le consentement. Alors, c'est dans cette... C'est suite à ces articles-là, en fait, et à l'interpellation de plusieurs organisations dans le monde qui a fait bouger Pornhub pour tout ça. Alors, sinon, ben, c'est ça. Comme je le disais, Pornhub, c'est géré par MindGeek, c'est le géant mondial de la pornographie en ligne. L'entreprise qui est basée à Montréal s'est retrouvée sur le feu des projecteurs après la publication de cet article du New York Times qui révélait que des vidéos de pornographie juvénile et de vengeance pornographique étaient hébergées sur le site. Depuis ce temps-là, ben, la classe politique en a parlé. Le Parti libéral du Québec a demandé à Québec et à Ottawa de sévir contre ses dirigeants. Les groupes Visa et Mastercard ont également annoncé qu'ils mèneraient des vérifications afin de faire la lumière sur les allégations du célèbre quotidien new-yorkais. Ils pourraient ainsi imiter PayPal, qui a cessé l'an dernier de traiter en fait les paiements à Pornhub. Alors, c'est exactement, hein, c'est que là, présentement, quelque chose qui était plaisant et entre adultes consentants devient une façon pour certaines personnes de détruire la réputation de d'autres personnes ou même de détruire la vie au final de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes-là ou de bref, ces personnes-là qui pourraient avoir été mis à leur insu sur le géant mondial de la pornographie. Alors on espère en fait au final qu'on va bouger. Ottawa, en fait, promet de légiférer. Stephen Guilbeault, notre ministre du patrimoine, a, en fait, dans une réplique en courriel à Radio-Canada, il dirait qu'il reste toutefois convaincu qu'une approche plus globale et des réglementations à grande échelle pour les différentes plateformes sont nécessaires pour s'assurer que les victimes se sentent suffisamment en sécurité pour s'exprimer, que les plateformes soient surveillées, que ceux-ci commettent des infractions soient punis. Alors, j'ai l'impression que M. Guilbeault, en fait, va plutôt miser sur de pousser, en fait, une réglementation mondiale plutôt sur la pornographie en ligne, la pornographie juvénile, la revenge porn, et non nécessairement simplement n'en parler au Canada ou dans son projet de loi qui devrait modifier un peu notre vision de l'Internet et des nouvelles communications au Canada. Alors, c'est quand même un peu triste de sa part. Je pense qu'on aurait pu avoir facilement... en fait, du capital politique de la part de M. Guilbeault, de la part de M. Trudeau, en disant, bon, on va légiférer sur la pornographie en ligne. Peut-être où on aurait perdu des grandes industries ou des sites, mais en tant que Canadiens, voulons-nous des sites qui propagent ce type d'informations-là ou ce type de contenu-là, en fait, à l'insu de victimes sur qui proviennent de nous, en fait? Bref, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Sinon, ben, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a déclaré pour sa part qu'il avait contacté la GRC pour que cette dernière offre, la GRC offre son aide au Québec et à Montréal dans le dossier de Pornhub. Alors, on en saura un petit peu plus dans les prochaines années, sûrement. Mais on espère que ce ne sera pas un pétard mouillé, on espère que ce ne sera pas une promesse en l'air de la part de nos institutions, parce qu'il y a... S'il y a bien un dépotoir de l'Internet, eh bien, c'est bien dans la pornographie en ligne. arnaque en ligne. Plus de 20 000 arrestations dans une opération coordonnée par Interpol. C'est l'AFP, repris par le Journal de Montréal ce matin, qui nous apprend que c'est plus de 20 000 personnes qui ont été arrêtées depuis septembre 2019 lors d'un vaste coup de filet coordonné par Interpol à travers le globe pour lutter contre les escroqueries au téléphone et sur Internet. Alors, cette opération d'ampleur, baptisée First Light, première lueur, a été lancée de début 2020 dans 35 pays et a permis d'effectuer plus de 10 000 perquisitions, d'interpeller 21 549 criminels présumés, opérateurs, fraudeurs et suspects de blanchiment d'argent et de saisir près de 154 millions de dollars de fonds illicites sur 310 comptes gelés. L'opération a été déclenchée après plusieurs mois d'enquête. Une série de notices mauves publiées par Interpol qui ont permis le partage d'informations sur les modes opératoires, les objets, les dispositifs et les modes de dissimulation utilisés par les criminels. Les suspects étaient impliqués dans plusieurs types d'arnaques en ligne, principalement, mes préférés, du type de social engineering qui consiste à manipuler les personnes afin d'obtenir leurs mots de passe ou coordonnées bancaires, précise l'Organisation de coopération policière international dans un communiqué soulignant que les criminels avaient su profiter du contexte de la pandémie. La plupart des escroqueries concernent des emails proposant des associations en enfer, des arnaques romantiques et sexuelles ou du smishing ou phishing par SMS, méthode d'arnaque qui s'opère via la messagerie téléphonie mobile dans le but de dérober des données personnelles ou bancaires. Alors, intéressant. Intéressant de la part d'Interpol, on le sait, le social engineering, c'est de vous faire croire qu'il y a quelqu'un de légitime qui vient d'une organisation qui vous demande des informations privées. Alors, par exemple, je dis « Ben bonjour, je m'appelle Roland, je suis de l'Agence du revenu du Canada et j'ai besoin de votre numéro d'assurance sociale parce que vous avez une grosse dette à l'ARC et je veux vous aider à la repayer. » Alors, une personne normale va dire « Diantre, c'est fantastique, je vais vous donner mon numéro d'assurance sociale. » Ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu ça, le social engineering, c'est de vous faire croire à un semblant de normalité, un semblant de professionnalisme, pardonnez-moi, pour en fait vous dérober ces informations-là. Alors, c'est à Singapour, la police a arrêté un suspect détenant une fausse information d'Interpol alors qu'il accompagnait une femme âgée, un distributeur de billets. L'enquête a révélé qu'il était lui-même victime de criminels se faisant passer pour des policiers chinois qui lui ont fourni ses faux papiers et lui ont ordonné de dépouiller cette femme. Ce vaste coup de filet a révélé la nature internationale de beaucoup d'arnaques, dont les auteurs sévissent autour, souvent en fait dans un autre pays, voire un autre continent, pour contourner la loi. L'argent récolté passe également par plusieurs pays et des mules sont parfois utilisées aux fins de blanchiment, précise Interpol. La situation sanitaire a contraint Interpol à annuler son assemblée générale annuelle prévue ces jours-ci. Son président sud-coréen Kim Jong-un, qui devait céder son siège, restera donc en place jusqu'à la prochaine assemblée. Alors, grand coup de filet de la part d'Interpol. Organisation qui est un peu la police du monde. On se rappelle au début de nos cassettes VHS ou DVD, quand on était plus jeune, il y avait un gros avertissement d'Interpol qui faisait peur. Eh bien, Interpol, c'est une façon pour tous les policiers de tous les pays de pouvoir avoir, comment dire, un point de communication pour justement régler des problèmes qui pourraient être malheureux pour notre planète et la sécurité de celle-ci. Alors, de notre côté, bon, on s'en va en musique, on s'en va avec notre nouveauté de la semaine. C'est la nouvelle de Frank Custo avec sa chanson Le Rock'n'Roll. Le 14 Cookie Club s'en vient de partir pour l'université après un petit bloc de pub. Alors, on s'en va à l'instant écouter Frank et on revient avec d'autres nouvelles à devant vos écrans.
Je te disais que je voulais changer le monde avec le rock'n'roll. Je pouvais à peine changer de bobette. J'ai réussi juste à changer de blonde pis mon fusil d'épaule. Quand le désir devient des projets, seul sur le sable, les yeux dans l'eau, je suis devenu un hobo. Je traîne mon matelas sur mon dos. Je guiderai plus ton auto. Je t'ai laissé le chat pis la TV. Faut dire que les deux étaient à toi. Tu m'as laissé pour le français. Je t'en veux pas, c'est ça que j'aurais fait. Je te disais que je voulais changer le monde avec le rock'n'roll. J'ai réussi juste juste à changer de blonde pis mon fusil d'épaule. Chez Seth, je peux squatter dans le grenier, pis y'a Martin qui habite en bas. C'est le retour de l'ado attardé. J'perds mon temps avec une gang de gars. Y'a un spot à feu sur le terrain, on y va pour s'apitoyer. Ou faire semblant que tout va bien, on finit bien chaud anyway. Puis on se dit qu'on va changer le monde avec le rock'n'roll. Ouais, on se dit qu'on va changer le monde avec le rock'n'roll. Puis on se dit qu'on va changer le monde avec le rock'n'roll. Ouais, on se dit qu'on va changer le monde avec le rock'n'roll. Je te disais que je voulais changer le monde avec le rock'n'roll. Je pouvais à peine changer de bobette. Je réussis juste à changer de blonde pis mon fusil d'épaule. Quand le désir devient des projets, je te disais que je voulais changer le monde avec le rock'n'roll. Je réussis juste à changer de blonde pis mon fusil.
Et oui, de retour à devant vos écrans avec Erika Laverdure. On vient d'écouter Fortune Cookie Club avec Partir pour l'université. Fortune Cookie Club, qui est le groupe de Noé Talbot. Noé Talbot qui a fait aussi un album, en fait, de cover de chansons de vieux punk, en fait, mais en français, un peu comme cette chanson-là de Partir pour l'université, qui est originalement une chanson de Blink-182. Excellent, pour de vrai, c'est un peu comme ce que je voulais faire au secondaire, mais que mes collègues de Ben ne voulaient pas parce que ça ne sonnait pas assez cool de chanter en français. Bref, quelque chose un peu comme ça. Alors, de retour, on va arrêter de se vider le cœur sur les groupes passés. On va revenir à nos sujets d'actualité numérique, informatique et technologique, comme à notre habitude. Alors, la COVID-19, je lis plein de choses de mon côté, là, mais bref, alors la COVID-19 qui ne finit pas de faire des victimes, on le sait très bien, un vaccin s'en vient, on l'espère, ça va bien aller de ce côté-là, mais au gouvernement, bref, aux États-Unis, il y a eu différents gouvernements qui n'étaient pas nécessairement d'accord ou non avec la COVID, hein, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait décider ou non. Alors, certains États ont décidé de cacher certains chiffres et tout ça est sorti au public dans les derniers mois. On peut penser à la Floride, par exemple. Le gouvernement de la Floride qui n'était pas content de cette sortie, de cette fuite d'informations-là. Alors, elle a fait une descente à la maison de la sonneuse d'alerte Rebecca Jones. Rebecca Jones est une scientifique des données qui avait été renvoyée du département de la santé de l'État. Elle avait accusé l'État de lui avoir demandé de censurer et de modifier les données sur les données du COVID accessibles au public. Alors, Rebecca Jones, c'est une ancienne responsable de la Floride qui dit avoir été évincée de son poste de gestion de données de l'État pour avoir refusé de censurer et de modifier les informations sur le cas. Alors, elle a déclaré que lundi, il y a eu des agents armés qui avaient fait une descente chez elle à Tallahassee et qui avaient emporté tout son matériel informatique. Jones, qui avait été licenciée en mai de son poste dans lequel elle dirigeait des scientifiques des données et des experts en santé publique du ministère de la Santé de Floride, a publié une vidéo d'elle-même qu'elle a capturée de l'incident de lundi, dans laquelle au moins 4 agents de police sont rentrés avec un mandat sur son ordinateur. Alors, les gens ont pointé des armes sur ses enfants, sur son mari, en criant de se tasser. Après, c'est ça en fait qu'elle critique aujourd'hui, mais après son éviction au printemps, après ça a fait mis dehors, Jones a rendu public des allégations selon lesquelles ses supérieurs lui avaient dit de mettre des informations trompeuses et fausses sur le tableau de bord, en fait sur le dashboard COVID-19 est destiné au public que les gens pourraient utiliser pour suivre les données sur les infections du coronavirus en Floride. Les informations qu'ils lui ont demandé de publier auraient surestimé le nombre de tests COVID effectués, mais aussi sous-estimé le nombre total de cas. Alors que la Floride se précipitait pour ouvrir son économie, elle a également déclaré qu'on lui avait demandé de retirer les preuves de personnes testées positives pour le virus en janvier pour continuer avec le message de l'establishment politique dans l'État. Depuis ce temps-là, elle a lancé son propre tableau de bord sur le coronavirus dans lequel elle publie des mises à jour quotidiennes sur le nombre de cas. La police a pris le téléphone et l'ordinateur qu'elle utilise pour publier ces informations, a-t-elle déclaré, lui disant qu'ils étaient liés à une faille de sécurité et une plainte déposée par le département de la santé de Floride. Jones a accusé le gouvernement de la Floride, Ron DeSantis, d'avoir envoyé la police chez elle lorsqu'il a été contacté pour commenter. Son bureau a dirigé le journal, en fait, a dirigé les journalistes vers le département de l'application de la loi de la Floride. C'est le Florida Department of Law Enforcement, un peu la police, a fourni une déclaration sur l'incident au journal US News and World Report, qui affirme qu'il s'agit toujours d'une enquête active. Alors, ce matin, le FDLE a signifié un mandat de perquisition dans une résidence du tribunal de Centerville à Tallahassee, la résidence de Rebecca Jones, indique le communiqué. La FDLE a ouvert une enquête le 10 novembre après avoir reçu une plainte du ministère de la Santé concernant l'accès non autorisé à un système de messagerie du ministère de la Santé qui fait partie d'un système d'alerte d'urgence à utiliser uniquement pour les urgences. Les agents croient que quelqu'un de la résidence de Centerville Court a accédé illégalement au système, alors que peut-être Madame Jones se serait connectée avec ses accès pour accéder à cette messagerie-là. Est-ce qu'on le sait ou non? Bref, C'est juste que semblerait aussi que Jones, bref, a décidé de ne pas ouvrir la porte. Bref, il y a toujours une question de Elodie qui a dit. Alors, dans tout ça, bref, ça brasse présentement pour Mme Jones, une lanceuse d'alerte, oui, qui est présentement arrêtée par la police. Ben, pas arrêtée, mais son matériel qui a été pris. Alors, j'ai bien hâte de voir les dénouements de tout ça. On va en voir plus dans les prochains mois aussi, étant donné que la pandémie se calme un peu plus. Peut-être d'autres personnes voudront sortir aussi sur la place publique pour peut-être, pour en fait, décrier la mauvaise information qui a été déclarée au public. Et ce qui est ironique, ce qui est comique un peu, pas ironique, mais dans tout ça, c'est que les conspirationnistes vont être les premiers à crier à la manipulation d'informations parce qu'il paraît qu'on grossit trop la pandémie. Eh bien, dans le cas de Mme Jones, on lui a dit de faire attention à ne pas trop montrer la vérité parce qu'on voulait s'assurer que les gens aient confiance en la réouverture de l'État. Bref, deux poids, deux mesures quand ça vient de la droite et des complotistes. On le sait très bien là-dessus. Mais passons à une autre nouvelle. On va se changer un peu les idées. Toujours avec Éric La Verdure devant vos écrans. Et sinon, ben, on parle d'un nouveau projet de loi en fait à New York qui facturait aux résidents 3$ pour tout colis commandé en ligne, autre que de la nourriture ou les médicaments. Alors, c'est une nouvelle proposition qui obligerait les résidents de New York à payer une taxe supplémentaire sur les colis commandés en ligne, qui ne sont ni des médicaments ni de la nourriture, a d'abord rapporté NBC New York. Le projet de loi A06078B a été proposé par le démocrate Robert Carroll, qui vient d'être élu à l'Assemblée de l'État de New York cette année. Le projet de loi ne fait qu'une phrase et se lit comme suit. Ajouter un supplément de 3$ sur la transaction de livraison en ligne se terminant dans qui devrait être livré dans la ville de New York pourrait être utilisé pour financer les coûts d'exploitation des bus et des métros de la ville de New York. Alors, c'est une politique légitime, on va dire, donner 3$ de plus par colis pour financer le transport en commun et tout ça. Bref, selon moi, le transport en commun devrait être financé par les grandes pétrolières et les grands utilisateurs de pétrole, mais bon, on en reparlera. Et les réponses, en fait, se sont très faites rapidement attendre du côté de ce projet de loi-là. On peut penser à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez qui a tweeté à propos de la proposition en disant que peut-être qu'au lieu de taxer les personnes qui ont besoin de préparation pour nourrissons et de produits essentiels, nous taxons ceux qui ont profité des milliards de dollars d'une pandémie mondiale. La proposition cible consciemment les entreprises de commerce électronique telles que Amazon qui ont profité de la pandémie. Dans un éditorial du New York Daily News lundi, Robert Carroll, son co-auteur, le président international du syndicat des travailleurs du transport, ont écrit que les sièges de livraison, en fait, que les stocks de livraison ne feront qu'empirer. Le commerce en ligne est en plein essor. Les bénéfices d'Amazon sont en hausse de 53% par rapport à l'année dernière. Alors, c'est intéressant que même Robert Carroll aime dire qu'on a eu une augmentation de 53% de la part d'Amazon, mais qu'on veut toujours taxer le consommateur et non taxer Amazon pour le service. Alors, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, on se rappelle qu'il a vu sa richesse augmenter de près de 70 milliards de dollars depuis mars, selon une analyse de l'Institute for Policy Studies. Pendant la pandémie, les milliardaires aux États-Unis ont ajouté 637 milliards de dollars à leur portefeuille. Attendez, je vais le redire. Pendant la pandémie, les milliardaires aux États-Unis ont ajouté 637 milliards de dollars à leur portefeuille. Je dis ça comme ça. Alors que Carroll a noté que les achats en ligne sont bon marché et pratiques, il a écrit qu'il espérait que ce projet de loi encouragerait les gens à faire leurs achats dans les petites entreprises locales. Pendant ce temps, certaines personnes sur Twitter ont noté que les achats en ligne sont plus qu'une commodité pour certains groupes, comme les personnes handicapées ou les New-Yorkais âgés, qui se sont fait demander de rester à la maison, par exemple. Alors, le commerce électronique a connu une croissance presque exponentielle cette année. On le sait, ça a été stimulé par la pandémie et la fermeture des magasins. L'année dernière, on peut, par exemple, le New York Times a rapporté que 1,5 million de colis étaient livrés dans la ville chaque jour, ce qui a probablement augmenté depuis le début de la pandémie. Alors, c'est presque... les chiffres des ventes en ligne, c'est le département américain du commerce qui a déclaré que presque il y a eu 209,5 milliards de dollars de ventes en ligne au troisième trimestre, soit une augmentation de 36% par rapport à la même période, mais en 2019. Alors, les chiffres sont clairs. Il y a eu vraiment d'augmentation, une augmentation, en fait, exponentielle des profits de ces compagnies-là qui transigent en ligne. Est-ce que c'est une bonne idée de taxer 3$ le consommateur? Pourquoi ne pas taxer la personne, l'entreprise? C'est sûr que malheureusement, dès qu'on va taxer l'entreprise, elle va augmenter ses coûts. Mais peut-être qu'elle va augmenter tellement ses coûts que personne ne voudra acheter là. Alors, qui sait? On verra bien. Alors, c'est une proposition assez intéressante de la part de Robert Carroll dans l'État de New York, mais je ne pense pas que ce soit une idée qui devrait être reprise ou même discutée dans d'autres hémicycles politiques, parce qu'au final, on devrait arrêter de taxer le consommateur, on devrait essayer de taxer le consommant, taxer la personne en fait qui continue d'augmenter son salaire et ses profits et qui continue de réduire les conditions de travail de ses employés. Toujours là, dans votre grande lecture de tout ce qui se passe dans le monde technologique et informatique. Et sinon, excusez-moi. Sinon, autre sujet. Et oui, fin de l'année veut souvent dire palmarès et top des sujets les plus discutés. Alors, c'est Twitter ce matin qui nous offre son top, en fait, des sujets discutés cette année sur la plateforme. Alors, évidemment, on ne sera pas de cacheterie. Le mot-clic COVID-19 et ses variantes a été utilisé près de 400 millions de fois sur l'ensemble de la planète, faisant de la pandémie l'événement le plus marquant de l'année, selon le communiqué de Twitter. Le deuxième mot-clic le plus utilisé sur le réseau social dans le monde a été Black Lives Matter. Les vies des personnes noires comptent. Ce mouvement américain du même nom dénonce les violences policières contre la population afro-américaine. Depuis juin dernier, le mouvement a été relancé via les réseaux sociaux aux États-Unis, puis dans le monde, après la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation. Sur le plan mondial, le gazouillis le plus relayé, aussi avec le plus de mentions j'aime depuis la création, est celui publié depuis le compte de l'acteur américain Chadwick Boseman, qui annonçait son décès des suites d'un cancer. La pop coréenne se distingue également alors qu'elle a suscité quelque 6,1 milliards de gazouillis au cours des 12 derniers mois, souligne Twitter. Pour dresser son palmarès, le groupe américain a exclu les contenus proposant des récompenses en échange d'abonnements et de retweets ou de mentions j'aime, alors pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de cochonneries dans leur test, dans leur top en fait. Taxer Facebook pour sauver les médias, c'est le cas de l'Australie. Un projet de loi va être présenté mercredi, en fait aujourd'hui, sûrement cette nuit où c'est déjà passé, bref, avec l'Australie et son décalage horaire, sera proposé au Parlement australien afin de contraindre Facebook et Google à rémunérer les médias pour leur contenu. Alors, selon le ministre australien des Finances, Josh Frydenberg. Il s'agit d'une importante réforme. C'est une première mondiale et le monde regarde ce qui se passe ici en Australie. Et je suis bien d'accord avec Josh. Ce dernier a précisé que le projet dévoilé en juillet serait présenté mercredi devant le Parlement en vue d'une entrée en vigueur l'année prochaine. Alors, ce code de conduite contraignant prévoit d'importantes pénalités en cas d'infraction s'élevant à des centaines de millions de dollars. Il s'appliquera notamment au fil d'actualité de Facebook et aux recherches sur Google, deux des compagnies les plus riches et les plus puissantes du monde. Les géants d'Internet devront éliminer les groupes de presse australiens, parmi lesquels les chaînes australiennes ABC et SBS, qui étaient au départ, pardonnez-moi, exclus de ce projet de loi-là. Alors au départ, on voulait simplement donner de l'argent aux petits médias, mais là, les gros médias tels que ABC, qui est un peu comme le Radio-Canada là-bas, l'Australian Broadcasting Company, a comme dit « Hey, hey, hey! » Et ils voulaient aussi se faire payer pour le partage par Facebook, parce qu'au final, Facebook, qui est comme devenu un... Pardonnez-moi, je vais toucher à mon micro, qui est comme devenu un peu notre nouveau journal d'aujourd'hui, hein, ou même de hier, parce que Facebook part en popularité. Mais aujourd'hui, par exemple, on va se connecter sur Facebook, on va lire les nouvelles. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont payés pour écrire ces nouvelles-là et qui ne sont pas payés par Facebook, qui fait de l'argent en publicité en proposant des nouvelles de ces gens-là qui ont été écrits par un autre média. Alors, c'est un peu évident qu'on va vouloir avoir une part de cet argent-là, les médias, parce que Facebook ben, fait beaucoup d'argent avec le partage des nouvelles. Alors, le gouvernement, cependant, a décidé d'en exempter les plateformes telles que YouTube et Instagram. Par rapport à la première mouture du projet de loi, des mesures ont cependant été atténuées, notamment celles visant à contraindre les géants de la technologie à faire preuve de transparence au sujet des algorithmes. Alors, avant, on voulait effectivement forcer ces grandes compagnies-là à nous donner accès à leurs algorithmes. Pour les algorithmes qui sont utilisés pour faire apparaître les flux d'informations des plateformes et les résultats de recherche. M. Frydenberg a indiqué que les géants de l'Internet ne seraient contraints d'informer les groupes de presse de modification de ces algorithmes en cas d'impact significatif sur le classement des recherches, avec un préavis de 14 jours au lieu des 28 jours initialement proposés. Au départ, l'Australie avait d'abord proposé un code de conduite sur la base du volontariat avant d'adopter une position plus coercitive en raison de la position inégalitaire en termes de négociation entre les médias traditionnels et les plateformes numériques, empêchant la conclusion d'accords équitables. Vous entendez ça, cher gouvernement? Quand il y a quelque chose qui est rendu trop gros, on ne peut plus laisser le marché lui-même se réguler. Il faut intervenir. Et c'est un peu ce que l'Australie tente de faire présentement. On ne peut plus dire « on va s'asseoir autour d'une table de concertation puis on va concerter ensemble ». Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut avoir des dents, il faut mettre des règlements. Et ces entreprises-là qui font tellement d'argent, s'ils ne sont pas contentes, ben qu'ils partent. De toute façon, quelqu'un va prendre la place. C'est ça le monde de l'industrie, c'est ça le monde du capitalisme de toute façon. Que plusieurs nous cassent les oreilles, qui a toujours de la compétition à quelque part pour quelqu'un. Alors, c'est un peu ça. Si Facebook n'est pas d'accord de se faire taxer sur les nouvelles, il va tout faire en son possible pour arrêter le partage des nouvelles. Peut-être les Australiens vont arrêter d'aller sur Facebook pour lire des nouvelles, ce qui va faire plus d'argent pour les médias conventionnels. C'est un peu ça qu'on aurait dû faire dès le début. Mais on aime mieux attendre que les grandes compagnies prennent tellement de place, un peu comme Uber, ici au Québec, que finalement, on va faire des légiférer j'essaie de trouver un mot, là, mais avec de la soie, on va pas faire mal aux gens, on va les chatouiller presque. Là. Alors, sinon, au départ, oui, alors comme je le disais, c'est un code de conduite qu'il fallait faire, mais on s'est rendu compte que c'était assez inégalitaire entre tout ça. Monsieur Frydenberg a déclaré que les deux parties seraient toujours encouragées à conclure des accords commerciaux, mais qu'en cas d'échec, cela serait tranché dans le cadre d'un arbitrage ayant force de loi. Enfin, l'initiative australienne est suivie de près à travers le monde, ben oui, hein, à un moment où les médias souffrent dans une économie numérique où les revenus publicitaires sont de plus en plus captés par Facebook, Google et d'autres grandes firmes technologiques. Facebook a prévenu, et oui, qu'il pourrait, en cas d'entrée en vigueur de cette loi, empêcher les utilisateurs et les médias australiens de partager les informations. Dans un message publié en août sur un blog, le directeur général du géant américain pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande avait affirmé que cette loi méconnaissait la dynamique de l'Internet. De son côté, Google a déclaré que la manière dont les Australiens utilisent Google était en danger. Une étude australienne qui a présidé à ces mesures a montré que pour 100$ dépensés en publicité en ligne, Google percevait 53$, Facebook percevait 28$ et que le reste était réparti entre d'autres géants de l'Internet. La crise des médias est aggravée par l'effondrement économique provoqué par la pandémie de coronavirus. En Australie, des dizaines de journaux ont été fermés et des centaines de journalistes licenciés au cours des derniers mois. Alors, c'est effectivement une réponse qu'il faut faire à la crise des médias actuellement. Ça fait des années que les groupes journalistiques crient, ils veulent de l'aide de la part du gouvernement et que malheureusement, ben, on décide toujours de plutôt écouter des grandes entreprises américaines qui s'en foutent un peu pas mal de nous autres. Alors, c'est un débat que j'ai hâte de voir comment ça va passer aujourd'hui. J'ai hâte de voir aussi la réponse des grands groupes sur cela. C'est sûr qu'on va faire peur au monde. On va leur dire que vous ne pourrez plus utiliser Facebook. Ça va changer les façons que vous allez utiliser Google, comme a mentionné Google. Mais au final, j'ai l'impression que d'habitude, quand que des grandes compagnies sont rendues à faire des grands discours comme ça, à nous faire peur, à nous prendre par les émotions, c'est que ça marche. Ça marche, ça veut dire qu'ils ont peur que peut-être ça va faire boule de neige, que peut-être Facebook et Google devront partager la part du butin qu'ils se partagent depuis maintenant presque 10 ans. Alors c'est le temps de reprendre en main en fait notre univers médiatique, notre univers technologique. On ne peut plus laisser ces grands joueurs-là sans règlement. Hein. On le dit souvent, un peu comme on l'a fait avec les banques en 2008, en « too big to fail ». C'est un peu la même chose présentement avec Facebook et Google. Si on décide de les fermer, ils sont rendus trop gros, ils vont faire tomber un écosystème complètement. Alors, régulons cet écosystème-là. Ce serait bien de voir ce type de politique-là arriver au Canada, au Québec. On va le voir avec la loi, en fait, la réforme de la loi sur le CRTC, en fait, qui s'en vient bientôt avec M. Guilbeault, qui va sûrement nous proposer des belles solutions, mais qui n'aura pas, malheureusement, assez de dents pour comment dire, combattre les grands joueurs tels que Facebook et Google. Midi 41, presque 42, on s'en va en musique. On va aller écouter les Breastfeeders avec Funiculaire. Les publicités s'en viennent après ça. Et ensuite, on revient pour un dernier sujet. On va parler de Cyberpunk 2077. Il me semble que ça fait 3 semaines que je parle de ce jeu-là à la fin de mon émission. Devant vos écrans, il est présentement midi 47 et dernier sujet de la journée. Cyberpunk 2077, vous êtes sûrement plusieurs à attendre impatiemment que votre Steam ou autre plateforme de téléchargement de jeu ouvre à 19h tout à l'heure pour jouer à ce fantastique jeu qui est attendu depuis presque 10 ans. Non, c'est pas vrai, je pense que ben, 5-7 ans quand même. Ça fait quand même assez longtemps qu'on en entend parler de Cyberpunk 2077. Alors, c'est en fait... C'est des avis qui sont... En fait, les critiques ont commencé à sortir. Alors tout d'abord, il faut se rappeler qu'au début de la semaine, CD Projekt Red, la compagnie de création du jeu, bref, ont averti les testeurs ou les gens qui l'ont eu en avance de ne pas faire de streaming de jeu, de ne pas montrer des images de leur propre jeu, étant donné que le jeu est encore sous embargo jusqu'à aujourd'hui, sa sortie. OK, bon, on comprend ça. C'est un jeu très attendu. On veut pas que les gens partagent des images et tout ça. Mais là, en faisant cette demande-là, ça fait en sorte que les testeurs ne peuvent pas prendre des photos eux-mêmes, des captures d'écran de leur propre écran. Alors, ils ne peuvent pas partager ce qui est sûrement quelque chose qui ne sera pas acceptable de la part des joueurs. Alors, bref, les critiques commencent à rentrer et, eh bien, on commence... En fait, c'est bien dit, quand on dit qu'il y a une grosse attente, ben, il y a souvent aussi une grosse déception qui vient avec ça. On se rappelle, par exemple, Red Dead Redemption 2, quand il est sorti sur PC, il y a eu des bugs horribles qui ont fait que plusieurs personnes n'ont pas joué, dont moi. Et sinon, bref, il y a eu plein d'autres choses de ce côté-là. Plein d'autres choses du côté des jeux. Bref, pour Il y a souvent des. Plus que le jeu est grand, plus que le jeu est attendu, plus il y a des problèmes. Et ça ne fait pas exception avec CD Projekt Red et Cyberpunk 2077. Alors, même avec une. Il y a quand même une très bonne note présentement. On est rendu à 91% de vie positive sur Metacritic, ce qui est quand même bien. Mais il y a quand même des critiques de la presse qui sont quand même assez rough envers le jeu. Alors, on peut parler, penser par exemple au test que j'ai lu hier de PC Gamer, PCGamer.com, qui avait beaucoup de bugs pendant le jeu, beaucoup des bugs qui détruiraient un peu, en fait, le plaisir de jouer. Alors, on a par exemple des NPG, hein, des personnages non-joueurs qui sont un peu cons. Hein. Ça, c'est sûr que de plus en plus, on nous parle tous les jours d'avoir une intelligence artificielle et on a quand même des personnages dans des jeux qui sont un peu caves et qui manquent de vie. C'est un peu ça qui se passe. Et c'est surtout que c'est un jeu seul, c'est un jeu solo, Cyberpunk 2077. Alors, ce n'est pas le type de jeu que au moins tu vas pouvoir jouer avec tes amis, ça va être mieux. Non, c'est vraiment un jeu complètement seul. Il y a plusieurs bugs également avec des ascenseurs qui ne fonctionneraient pas, des voitures qui apparaîtraient. Il y a aussi plusieurs bugs qui ont forcé certains testeurs à recommencer le jeu. Alors ça, à cause de ça, je pense que ça va marquer quand même la soirée de ce soir et la journée de demain. Tous ces gens qui vont se plaindre de ces problèmes techniques-là reliés au jeu. Alors, bien hâte de voir ça. Est-ce que vous êtes un joueur de Cyberpunk 2077? Et bref, j'espère que vous aurez une belle expérience ce soir. J'espère que tout va bien aller dans le meilleur des mondes. C'est un peu ça le problème avec ces jeux-là. C'est que, surtout un jeu sur PC. Par exemple, un jeu sur console, sur Xbox, sur PS4, on peut le tester facilement. En fait, parce que il y a juste une console à tester. Tandis qu'un ordinateur, c'est sûr que c'est un mix de plein de pièces différentes avec des performances différentes. Alors, c'est sûr que c'est pas le meilleur des mondes parfois et ça peut créer certains bugs techniques et tout ça. Alors, comment ça va être ce soir. J'espère que vous allez avoir autant de fun que moi j'ai eu avec World of Warcraft il y a 2 semaines. Bref, alors je souhaite à tout le monde qui voulait jouer à Cyberpunk 2077 une belle soirée ce soir et on en reparlera sûrement la semaine prochaine s'il y a beaucoup trop de problèmes. On parle aussi d'une durée de vie décevante qui sera trop courte. On parle de presque 30 heures de jeu, mais peut-être ça va être plus bas. Mais il ne faut pas oublier non plus que... on parle de 50 à 60 heures pour le jeu complet, pour les gens qui prennent leur temps. Alors, on peut savoir qu'un joueur à 5 ans pourrait finir le jeu en moins de 20 heures. Alors, peut-être d'ici 3 jours, déjà, des gens vont avoir fini le jeu. Bref, tout ça et encore plus qui nous permettra de savoir, en fait, si ça vaut la peine de se hyper, si ça vaut la peine de créer autant de moussage autour d'un jeu, surtout un jeu qui est aussi vieux que ça annoncé. Fait penser un peu à mon... au terme vaporware qu'on utilise, qui est des jeux qui sont annoncés, qui sont tellement sortis tard que ça devient un peu de la vapeur. On peut penser un peu à Duke Nukem Forever qui avait été annoncé. Je pense que ça faisait presque 15 ans que je l'attendais quand le jeu est sorti. Et finalement, ça a été un des pires jeux de la série. Alors, c'est un peu triste dans tout ça, mais c'est le monde des jeux vidéo. C'est le monde de l'industrie. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus de cette industrie-là l'année prochaine. Peut-être des plus grands formats sur un monde en particulier. Par exemple, parler de un peu plus d'une lecture de gauche, mais pour le monde du jeu vidéo ou même le monde du streaming. Ce serait assez intéressant. Alors, je mets ça dans ma petite pochette. Et je vais sûrement pouvoir vous fricoter ça pour la prochaine année qui s'en vient très bientôt. Alors là-dessus, moi de mon côté, c'est déjà le temps de tirer ma révérence pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur les ondes CFAK 88.3. Ne manquez pas dès 16h notre Touski pour en savoir plus sur la vie cherbrouquoise, cette vie qui est toujours un peu au ralenti. Et sinon, ne manquez pas, on a en fait une nouvelle émission depuis quelques semaines, et je voulais en parler, c'est la VG-mission dès 18h. Alors, ne manquez pas ça pour du contenu sur le monde du véganisme et encore plus. Alors, passez une excellente journée encore, et à la semaine prochaine! Presse.
Dans le plan, enfin. Dans le plan, devant le net, je suis from downtown, pire, je te l'enlève. Le boy back, c'est le mode présidentiel. White boss dans l'avion, c'est écrit dans le ciel, man. Qui le verrait à l'envers la feuille sur ton drapeau, tu sais, c'est le président. T'as une diplomatie rap et c'est business, on blesse le micro si tu payes maintenant. Y'a pas personne qui l'a pas eu le news. Pas Canada, Outre-mer, on the move. We flippin' le joie sur les one pis les twos. Introduction, le sacrament smooth. Bobby, now breaking bread. Merci de rien, s'il vous plaît. Oui, je roule avec aussi we have. Tout c'est une tree every day. Les jardins botaniques quand tu tiens le mutin. J'suis parti chasser le tuna juste pour me faire le plebain. Fais mon thing comme ma cube. La boîte à chute là que j'pick up le cash. À ce qui paraît, j'allais parler, parler. Moi quand j'ai la parole, me parler pas que tu peux le prouver. But Canada, black is land, do and don't. Notre sound, I show you know we bout it. Mais what? Juste prévu pour les bars afin de nourrir la famille en février. Oui, tu sais. Sur le terrain, t'auras plus rien à dire. C'est ballon qui va décider. Anyway, overachiever sur overdrive. Tommy Tuchel sur le starting five. C'est nous les deux côtés de la médaille. Sur son respect, for 99. Pull up dans Echo with Basin, baby. Y'a ain't got no ace, baby. Y'a rien n'est-ce qu'on fait qui basic. Quatrième ville dans le 5 des amazing. Garde son enfant, il part train. C'est plus vrai, mais c'est pas franc, je suis multiplié. Check ça comment qu'on est pain. C'est dur de pénalité, reste chouette. Comment ça règne, mais tu sais pas diviser, non. C'est même pas d'essayer d'imiter. Tu pourras jamais nous limiter, bah. Tu m'as vu dans l'écran, mais crois pas trop ce que ça t'y visse, non. Chaque légume finit dans le mix. Shoot un peu de trip et t'entends, je serai swish. Check les lumières ou vérifie les risques. J'vois la République, mon alibi, c'est the witness business. La discographie intégrale est dans Guinness. We in this, bah we men like it. Les vicious, la garde des coquillages, you know who the riches. Yeah, we just chillin' chez nous, le pis screamin' le moule. Cachou dans ma kitchen, c'est capoté, you know. Bobby be cookin' the big plans. Pour ramasser le goût de pelouse, c'est knoula. On a personne sur le banc, everybody dans mon team, sa glace. On a déjà tout ce qu'il nous faut à maison, everybody dans mon team, papa. Gotta get working, prince sa planche, pour du butter, pis du ben sa table. On a game 7 millions en place, everybody dans le bug, get busy right now. Qu'est-ce que prévu pour l'hiver afin de nourrir la famille en février, oui, tu sais. Sur le terrain, t'auras plus rien à dire, c'est ballon qui va décider. Anyway, overachiever sur overdrive. T'as mis 12 ans sur le starting five. C'est nous les deux côtés de la médaille. Sur son respect, t'as for 99. Pull up dans Echo with Basin, baby, y'a ain't got no ace, baby. Y'a rien n'est-ce qu'on fait qui basic. Quatrième ville dans le scène des amazing. Garde son enfant, il part train. C'est plus vrai, mais j'm'en pas franchi, se multiplie. Check ça comment qu'on est basic. J'remis de la mort avec un peu d'humilité.